permanent crease in your jeans. Me and Missy be the new tag team. Whoop, there it is. We like Ray and Ghost, AG and Showbiz. We public enemy number one. Our Uzi weighs a ton. This is a house run.
What happened to those good old days when hip hop was so much fun? Oh, house parties in the summer, y'all. And no one came through with a gun. It was all about good music, y'all. It helped to relieve some stress. So much love between North and West. Hey,
come on,
go back in the day.
Come on,
British knights and gold chains.
Come on,
do the prep and cabbage patch.
Come on,
and wear your laces all fat. Back in the day, hip hop has changed.
Yes.
You're listening to Radio Galère. Okay, stay tuned. Bless.
Voilà, voilà. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent Radio Galère. Aujourd'hui, 25 septembre 2024. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Radio Galère, c'est d'abord du social. Quelquefois un peu de politique, mais c'est essentiellement du social pour article 25. Voilà. C'est dit, c'est dit. Nous avons quand même un Premier ministre. Bon, je ne sais pas ce que celui-là donnera. Nous verrons bien ça dans les semaines, les mois, les années à venir. C'est toutefois, il reste donc Premier ministre. C'est M. Barnier, je crois, il me semble. Bon. Voilà. Aujourd'hui, alors, nous allons voir un peu ce qu'il en est, ce qu'il en a été, ce qu'il en est toujours de la lutte des classes. La lutte des classes est une expression qui désigne les tensions dans une société. Et diviser une classe dite sociale. Bon, chacun en luttant pour sa situation, bien sûr, social-économique et un monde théorique, qui explique les enjeux de cet affrontement. Bon, ce concept est apparu au XIXe siècle chez les historiens libéraux, français donc de la Restauration à l'époque. François Guizot, l'initiateur Augustin Thierry Adolphe Thiers, et un nommé François Auguste, auquel cas Karl Marx. Là, un pointé. Alors, Karl Marx et Friedrich Engels écrivent en 1848 dans le manifeste du Parti communiste que les prolétaires ne peuvent pas être assujettis à une patrie, en particulier que les divisions étatiques, nationales et ou culturelles, je précise, qui les opposent, sont de simples diversions en regard du conflit central. La lutte donc des classes qui oppose le travail au capital dans le cadre mondialisé du capitalisme, voilà. Pour Marx et Engels, qui ont assuré la diffusion internationale de cette notion. Bon, la lutte des classes est un moteur de transformation des sociétés, bien sûr, et de l'histoire moderne. La lutte des classes existe encore de nos jours, avec tout ce qui se passe au niveau grève, manifestation, occupation et tout ce qui s'ensuit. Bon, la classe dominante de la société capitaliste est identifiée à la bourgeoisie ou pas, ou classe capitaliste. Elle domine ce qu'ils appellent le prolétariat, voilà. Le prolétariat, c'est tout simplement la classe ouvrière. Bon, cette théorie a été adoptée par de nombreux courants syndicalistes, socialistes, communistes, anarchistes, voilà, révolutionnaires ou réformistes au 19e et 20e siècle et 21e siècle et a fourni un cadre théorique aux luttes pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Bon, c'est une analyse qui a acquis une autonomie vis-à-vis du cadre marxiste, a été utilisé par de nombreux sociologues, philosophes et théoriciens politiques, bien sûr. Pour Marx, la révolution sociale ne pouvait être accomplie, c'est-à-dire déboucher sur une société communiste qu'à l'échelle mondiale. Aucune révolution communiste ne serait réussie s'il ne se déclenche pas en même temps une révolution mondiale. Bon, les classes, bien sûr, les classes. Le modèle de société organisée en classes concurrentes, donc comparables, s'oppose à celui de sociétés polysegmentaires ou de sociétés de caste, dans lesquelles des groupes différenciés occupent des fonctions séparées et prédéfinies. Bon, comme les activités militaires, religieuses, les sociétés de classe apparaissent sous l'Antiquité, déjà à Rome, déjà, et dans les sociétés urbaines modernes avec l'émergence de la bourgeoisie. Je dis à Rome, bien, de toute façon, on peut remonter très loin dans l'histoire. Hein, en fait, il y a toujours eu des luttes sociales, hein, entre autres. Voilà. Bon, on trouve les notions de classe et de lutte des classes employées dans les contextes historiques, bien sûr, très variés. Voilà, donc il y a ce que l'on appelle, bien sûr, la lutte entre les esclaves et les maîtres dans les sociétés esclavagistes ou métèques et esclaves des sociétés antiques, voilà. Voilà, donc là on remonte dans le temps, au temps des pharaons, avant, hein, ou après. Hein. Bon, lutte entre piebs et propriétaires terriens illustrés par les Gracques. Lutte entre le tiers-état et la noblesse à la veille donc de la Révolution française, là où on a coupé les têtes. Ça marchait vite, croyez-moi. Lutte entre les prolétaires, leurs exploiteurs bourgeois dans la société capitaliste moderne, lutte entre hommes et femmes dans les sociétés patriarcales où l'exploitation domestique est le nerf de la hiérarchie sociale. Bon, voilà. Caste en Inde, séparation entre colons et indigènes dans les colonies, voilà. Les colonies n'ont jamais dû exister, hein. Cela a été de l'esclavage. Dichotomie, marquée entre pays du Nord et pays du Sud. Ségrégation raciale et ou socioculturelle dans les métropoles, voilà. Les 13 fonctionnaires dans la Chine ancienne, mais aussi les traits contre l'empereur, si besoin, selon les recommandations de Lao Tzu, qui était un Chinois. Cependant, la notion de classe est essentiellement économique, hein, et l'appartenance de classe n'est pas toujours facile donc à déterminer. Par des critères légaux objectifs, l'homogénéité d'une classe est assurée par un fonctionnement de la société où les réseaux sont indispensables, et oui, et où les inégalités sont durables également. On est dans une famille riche ou pauvre, ainsi que par des mécanismes sociaux, subtils, conscients ou inconscients, cliniques de l'idéologie, et non par des contraintes légales explicites, comme étaient les États de l'Ancien Régime. C'est-à-dire le régime qui s'appelle le régime napoléonien et plus près de nous, le régime du 19e siècle. Bon, la lutte des classes n'a pas toujours lieu entre classes dominantes et classes dominées, mais peut avoir lieu entre deux classes dominantes pour asseoir leur suprématie, c'est-à-dire se battre entre eux pour assurer donc leur pouvoir, quoi. Leur pouvoir, la richesse et tout ce qui s'ensuit derrière. C'est pourquoi Marx qualifie la Révolution française de révolution bourgeoise, considérant que c'est le moment historique où la bourgeoisie a évincé la noblesse et le clergé pour asseoir son oppression sur les classes populaires. Bon. Si la lutte n'a pas non plus lieu entre seulement deux classes, et Marx distingue entre 4 et 7 classes selon ses ouvrages, elles peuvent toujours être distribuées en deux groupes. L'une formant la classe dominante, l'autre les classes dominées que les mouvements syndicalistes et révolutionnaires, bien sûr, et seront rassemblés au cours d'une conscience de leur intérêt. Bah, généralité du concept, mais maintenant, hein, voilà, pour l'historien donc Nicolas Lebourg, la thèse d'Henri de Boulainvilliers, développée donc au XIXe siècle, selon laquelle les Francs auraient donné jour à la noblesse, tandis que les Gallo-Romains vaincus formaient la paysannerie, fournit ensuite à Karl Marx principe même de la lutte des classes, hein, construisant toute l'histoire. Le concept de classe apparaît déjà chez Voltaire et dans son article, dans son dictionnaire philosophique portatif sur l'égalité. Bah, il est impossible de notre malheureux globe, notre malheureux pays, notre malheureux monde, que les hommes vivant en société ne soient pas divisés en deux classes, l'une de riches qui commande, l'autre de pauvres qui servent. Et ces deux ne se subdivisent à 1000 et ces 100 000 encore des nuances différentes. Perspective libérale, oui, le concept de lutte sociale apparaît chez François Guizot, qui dans son cours d'histoire... Bon, Un petit souci technique. Voilà, 2 minutes, un téléphone de sonne. Je m'excuse. On va couper l'émission 2 minutes. Voilà, voilà, ça y est. Petit accident technique, ce sont des choses qui arrivent. Bon, je reprends un peu ce que j'ai dit. Le conseil donc de lutte sociale apparaît chez François Guizot dans son cours d'histoire moderne sur l'histoire générale de la civilisation en Europe. Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française, donnée à la Sorbonne en 1828. Ouvrage dans lequel explique que le troisième grand résultat de l'affranchissement des communes, c'est la lutte des classes, qui remplit l'histoire moderne. L'Europe moderne est née de la lutte des diverses classes de la société. Dans son esprit, la lutte des classes est un phénomène qui tire son origine de la conquête franque du 5e siècle, opposant donc deux peuples ou selon la formulation du temps de race, c'est-à-dire un tiers d'État d'origine gallo-romaine. Voilà. Les auteurs français de cette théorie libérale de la classe et des classes sociales sont inspirés par Jean-Baptiste Say ou Antoine Deschutes. Le Tracy, cependant, reprend des thèmes que l'on retrouve dans des moments plus anciens, comme celui de combat pour l'égalité des levels anglais au XVIIe siècle et dans celui d'exploitation des écrits de Turgot et de Jérémy Bentham qui se sont intéressés à la recherche de rente. Bon, dans la signée de ses travaux et des premiers théoriciens de la lutte des classes, des penseurs comme Charles Comte ou Charles Dunoyer présentèrent l'État comme le siège de la recherche, de rente financée par l'impôt. Par conséquent, ils distinguèrent deux grandes classes dans la société industrielle. Les producteurs de richesses qui acquittent l'impôt, tiers-État, et les consommateurs d'impôts, la noblesse. Leurs intérêts de classe sont clairement antagonistes, puisque les premiers désirent être moins taxés, alors que les seconds sont en faveur d'augmentation de l'imposition. Le marxisme a développé une théorie complexe à propos de la lutte des classes et de son évolution historique, à laquelle le manifeste du Parti communiste fournit une introduction. Cette théorie a connu un engouement majeur pendant le XXe siècle et a influencé le destin d'un grand nombre de pays. Bon, s'inspirant de nouveaux auteurs philosophes, économistes et historiens, Marx et Engels mettent en relation différents concepts afin de comprendre au mieux la société de ses structures. Le conseil de lutte des classes des libéraux associe à une critique de certains aspects de la pensée, ainsi qu'une conception matérialiste de l'histoire, constitue des éléments contribuant à expliquer les mouvements historiques. Le marxisme envisage que la classe exploitée, le prolétariat, s'émancipe en renversant la domination de la classe exploiteuse, la bourgeoisie, pour atteindre la société sans classe. Selon la perspective marxiste, l'histoire de la société jusqu'à nos jours reflète donc la division de la société en classes sociales. Homme libre, esclave. Ça n'a pas beaucoup changé. Homme libre, esclave, patricien et plébéien. Baron et serf, maître de jurant des compagnons. Homme oppresseur et opprimé, qui s'oppose dans une lutte ininterrompue, tantôt déclarée, tantôt larvée. Pacifique ou non, la société capitaliste moderne, en renversant les divisions en ordre de la société féodale, n'a pas aboli les antagonistes de classe, mais les a remplacés par des nouveaux. Elle a également simplifié de nos jours la société, se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, entre deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Marx distingue toujours au moins deux classes fondamentales. Les capitalistes ou bourgeois, classe dominante qui possède le capital et dispose ainsi des moyens de faire travailler autrui à son profit, ça n'a pas trop changé maintenant, en pesant sur le cours d'achat de la force de travail. Le prolétariat regroupant les personnes qui n'ont pas de capital et sont contraints de vendre leur force de travail pour subsister. Il s'agit de la classe salariée. Outre qui distingue parfois des sous-classes opposant par exemple la bourgeoisie industrielle et financière et à ces deux classes fondamentales s'ajoute une classe intermédiaire comme fulcrante au niveau de ses intentions d'émancipation. La petite bourgeoisie, comme on l'appelle, regroupant les personnes qui possèdent leur propre moyen de subsistance, petits commerçants, professions libérales, etc., etc., c'est clair que faire une autonomie précaire par rapport aux capitalistes. Ils n'ont pas besoin de se salarier, mais ils ne sont pas eux-mêmes patrons et doivent travailler pour vivre. Toutefois, selon lui, la bourgeoisie, le prolétariat peuvent avoir une politique réellement dépendante. Diverses couches de la petite bourgeoisie étant soit attirées par le prolétariat au point d'y conformer parfois ses intérêts, soit au contraire respectant et enviant les grands capitalistes, confondant ainsi sa vision politique du grand patronat. Cette lutte embrasserait tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et idéologique et serait moteur à l'évolution sociale donc de l'histoire. Le capitalisme exercerait une pression pour diminuer la part de production destinée aux prolétaires, conduisant à accroître l'exploitation des travailleurs et leur paupérisation, et augmenter le capital en masse de richesses qui sont consommées dans la lutte ou concurrence qui oppose les capitalistes entre eux, le mouvement ouvrier, notamment la lutte syndicale, force opposée, tend à augmenter la part de richesses recueillies par la classe laborieuse, tout en établissant leurs revendications dans le strict cadre du salaire. Les acquis sociaux représentent la part que le capital alloue au prolétariat pour préserver la stabilité de la paix et de la société. Qui lui est toujours favorable. Bon, souvent après des bouleversements majeurs tels que la grève générale spontanée de 1936, la petite bourgeoisie serait de son côté condamnée à régresser et à se prolétariser, à raison de son incapacité à soutenir la compétence et la concurrence avec les capitalistes. Pour les marxistes, la lutte des classes donne un sens à l'histoire et explique la dynamique qui mue les sociétés. L'histoire de toute une société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Elle s'arrêtera lorsqu'une évolution prolétarienne mondiale conduira à une société ou après un temps où la classe dominante sera également classe laborieuse, ce qui n'est pas encore gagné. Bon, classe laborieuse, dictature du prolétariat, les différentes classes sont définitivement abolies, conduisant ainsi à une société sans classe, et donc à l'égalité. Bon, cette perspective, alors si l'organisation aide sociale elle même encourage la cohésion du prolétariat, alors que les richesses produites pourront être employées de manière optimale pour améliorer le sort de l'humanité, la production pourra répondre exclusivement à une démarche. À une demande, pardon, et non un besoin de conquérir des marchés. Et le pouvoir politique ne sera plus un instrument de service aux capitalistes, mais l'expression véritable d'une démocratie. La révolution communiste permettrait donc de faire cesser la division de la classe, de la société en classe. Pour atteindre cet objectif, les marxistes considèrent que le prolétariat doit acquérir une conscience de classe, c'est-à-dire doit prendre conscience de ce qu'il est, tel que le conçoit la théorie marxiste dans le cadre général de la société, et prendre confiance dans sa capacité à organiser la société de manière solidaire, sans plus se soumettre à la classe capitaliste. Cela se serait produit à plusieurs reprises au cours de l'histoire, notamment pendant la Commune de Paris, 1871, et la Révolution russe, en 1917. Même si ce dernier événement, les avis sont très divisés entre les différents courants marxistes, dont beaucoup se réfèrent à l'analyse de Marx sur l'échec inévitable d'une révolution qui ne serait pas mondiale, et souligne que les États communistes concrets ont créé des sociétés inégalitaires et totalitaires dirigées de manière dictatoriale par une bureaucratie privilégiée. De princes rouges et de militaires qui ont abandonné l'objectif communiste initialement revendiqué et se sont mués au bout de quelques décennies à un nouveau capitaliste. Voilà. Bon, lutte des classes contemporaines, et j'en resterai là. La lutte des classes se manifesterait formellement aujourd'hui par les mouvements sociaux comme les grèves ou les manifestations. Les principaux motifs des grèves sont pour exiger du patronat des augmentations de salaire, pour empêcher des licenciements contre les conditions de travail. Et au cours du XXe siècle, ont été mis en place de nombreux mécanismes ou organismes paritaires, opposant cela dit chautomie. Employeur-employé, il s'agit au niveau de l'entreprise, du comité d'entreprise, ou au niveau national d'organismes de formation, professionnelle, de convention collective, de conseil pour des prud'hommes et ces mécanismes qui offrent un cadre légal institutionnel aux relations entre classes peuvent donc rentrer dans le cadre de la collaboration de classe. Voilà. Voilà. C'était une longue histoire donc de la lutte des classes. Je vais demander à la régie de mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes. Merci de votre écoute. Pour l'émission. Aujourd'hui, quand j'ai payé, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est tout simplement qu'on s'appelle des congés quand un salarié ou des salariés partent en vacances. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, les congés payés désignent donc des périodes de congés au cours de laquelle le salarié est payé par l'employeur à raison d'une obligation légale dans certains pays. Voilà, c'est la définition. Les premiers congés payés font leur apparition en France uniquement pour les fonctionnaires, tout d'abord. À la suite de la promulgation d'un décret de Napoléon III, 9 décembre 1853. Bon, d'autres lois à ce sujet sont adoptées ailleurs à la même période, par exemple la Bank Holiday Act, votée en Angleterre en 1871 et qui accordait 4 jours de congé pour les employés de banque en Angleterre. Bon, l'Angleterre, c'est loin, on passera. Voilà. Les congés payés ont par la suite été introduits donc en 1905 en Allemagne, en 1910 en Autriche-Hongrie et dans les pays scandinaves, dans les années 20 et au début des années 1930 en Italie, 1927 en Tchécoslovaquie, Pologne, Luxembourg, Grèce, etc. Alors en France, c'est pas en France, c'est bien au-delà de l'instauration initiale de 1853. Le concept ne cesse d'évoluer et se développe surtout sur le Front populaire, qui met en place un système de congés payés de 2 semaines. 2 semaines de congés payés, c'était le bout du monde, quoi. En 1936, la Belgique fera de même dès le 27 juin suivant. Bon, mais la même année. Bon, au niveau mondial, le nombre croissant de personnes bénéficie de congés payés, puisque selon l'Organisation internationale du travail, OIT, comptait 3,5 milliards de bénéficiaires à la fin des années 1980 et 4 milliards à la fin du deuxième millénaire. Au début du 20e siècle, les congés payés existent dans de nombreux pays. Bon, en Allemagne, bien sûr, en 1903, l'Association centrale des travailleurs de la brasserie allemande, l'organisation qui a précédé le syndicat de l'alimentation et de la restauration, a réussi à négocier des conventions collectives avec les brasseries du réseau de Stuttgart et la brasserie de Grietz. En vertu de ces accords, les employés reçoivent 3 jours de congés payés après au moins 1 an de service. pendant la République de Weimar, le nombre moyen de jours de vacances des ouvriers et des employés était passé de 8 à 12 jours. Parce que les habitants ont droit à un congé annuel payé dans les années 1930 à l'occasion de la création de l'organisation. Voilà. Les nationaux-socialistes ont étendu le droit aux vacances à 2 ou 3 semaines par an, sans toutefois réglementé par une loi. Bon, dans la, bon, il y a aussi la République fédérale allemande, la loi fédérale sur les congés, bon, qui prévoyait 24 jours ouvrables de congés payés, a été passée en 1963. Comme cette loi était à la base d'une semaine de 6 jours, le nombre de jours de congés s'est réduit à 20 jours avec introduction de la semaine à 5 jours. Voilà. Bon, ça, mais ça, c'était en Allemagne. Alors, en France, eh bien, j'y viens. L'idée de vacances payées dans les années 1920 en France, il existe des exemples d'initiatives à cette époque, notamment sous l'inspiration allemande. Et c'est ainsi qu'en Alsace, les 2/3 des employés bénéficient déjà des congés payés en 1936. Léon Blum écrivait alors des articles pour l'information et cette initiative l'intéressa vivement. Ce fut sans doute l'un des germes de cette révolution culturelle qui fut la création des congés payés. Néanmoins, la victoire du Front populaire aux élections législatives du 3 mai 1936 provoque une grande revendication chez les travailleurs. Il lance un mouvement de grève d'occupation d'usines à travers toute la France. Les grèves joyeuses impliquant près de 2 millions de travailleurs, ces grèves paralysant tout le pays, entraînant l'ouverture de négociations avec le patronat sous la tutelle du nouveau gouvernement. Elles aboutissent aux accords de Matignon, créant notamment les conventions collectives. Fixé 15 jours à l'origine, dont 12 jours ouvrables dans la loi du 1936 et les congés payés minimum obligatoires, se sont allongés au XXe siècle par l'action législative. Il passe à 3 semaines, passe à 3 semaines, 18 jours ouvrables par une loi du 28 avril 1956, votée à l'unanimité sous le gouvernement Guy Mollet, puis promulguée le 27 mars de la même année. Le 20 mai 1965, André Bergeron, qui était secrétaire général de Force ouvrière à l'époque, obtient un accord avec le Conseil national du patronat français pour passer à 4 semaines. Les gouvernements de Charles de Gaulle et Georges Pompidou réussissent à présenter un projet de loi qui est voté à l'unanimité par l'Assemblée, de décembre 1968. Cependant, à la suite des événements de 1968, la promulgation n'a eu lieu que le 17 mai 1969. Donc cela a été, par rapport que ça s'appelle à mi-juin 70, cela a été reculé. Le passage à 5 semaines est réalisé par l'ordonnance du 7 janvier 1982 du gouvernement Pierre Mauroy à l'époque. Ah, Pierre Mauroy, considéré comme faisant partie des lois Roux. Bon, voilà. Bon, bien sûr, il y a eu l'Italie. Bon, le droit à une période annuelle de repos rémunéré a été reconnu bon, en Italie, bien sûr. En Suisse, les congés payés en Suisse furent adoptés en 1964. 2 semaines, 4 semaines, en 1984. Bon, réglementation, le nombre de congés payés varie de pays à pays. Les conventions collectives négociées entre le patronat et les syndicats des salariés garantissent souvent un nombre de jours de congés payés supérieur au minimum légal. Voilà. Voilà. Bon, jours de congés payés, jours fériés, bon. Tous les pays, donc, ont leur propre réglementation que j'ai payé. Là. L'Autriche, la Finlande, la Suède, Luxembourg, l'Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, l'Allemagne, etc., etc. Toute la liste là y est, quoi, voilà. Et même la Pologne. Certaines comparaisons entre pays prennent en compte des jours fériés. Hein. En Allemagne, par exemple, le nombre de jours par an établi par l'article 3 donc, de la loi fédérale. Et de 24 jours, les jeunes salariés bénéficient jusqu'à 30 jours d'en effet. Les entreprises et les syndicats allemands privilégient une négociation par branche qui peut se traduire par convention collective, qui comprend généralement 30 jours de congé, soit 6 semaines. Le samedi n'est pas dans l'ensemble pas décompté. Bon, en France, je reviens, en France, seuls les salariés bénéficient des congés payés. Les travailleurs non salariés, les professions indépendantes qui n'ont ni patron ni salaire n'ont donc logiquement pas de ressources quand ils ne travaillent pas. Pour tous les bénéficiaires, les congés payés sont proportionnels au temps de travail réalisé pendant l'année de référence. Pour la plupart des salariés, cette année, la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Voilà. Exemple, pour les congés 2009, bon, là on recule, l'année de référence a été et est comprise entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009. Pour les fonctionnaires, la période de référence de l'année civile, la durée maximum d'absence du service ne pouvait excéder 31 jours, sauf pour les agents bénéficiant de congés bonifiés. Voilà. Bon, pour d'autres salariés, ceux qui bénéficient d'une caisse de congés payée, donc EDF, c'est un peu particulier, l'année de référence court du 1er avril au 31 mars. Bon. Bon. Aux Pays-Bas également, les congés payés sont au minimum au nombre de 25 jours. Cependant, la plupart des entreprises donnent 5 semaines, tout comme l'État, en accord avec les syndicats. Bon, en Suisse, les salariés bénéficient légalement du niveau fédéral, 20 jours de ouvrés de congés payés par an. C'est bien que de nombreux salariés bénéficient de 25 jours. Bon, il est à noter également que les personnes âgées de moins de 20 ans ont le droit légal de prétendre un congé payé 25 jours. Certains métiers bénéficient grâce à des conventions collectives de travail. Voilà. Bon. Bon, bien sûr, vous avez également l'Amérique du Nord, vous avez le Canada, vous avez le Québec, vous avez les États-Unis. Bon, aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'il y a des congés payés aux États-Unis. Il n'y a même pas de sécurité sociale, pour vous dire. Voilà, c'était un historique, donc, des congés payés. 14h29, j'ai demandé à la régie de mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici quelques minutes. Allocation de chômage, ai-je droit donc à l'allocation de chômage? Bon, ce n'est plus, comme ça s'appelle maintenant, ce n'est plus NPE, c'est France Travail. Alors, est-ce que vous avez droit au chômage? Eh bien, nous allons voir ça. Bon, toutes les personnes qui perdent son emploi peuvent s'inscrire donc pour avoir, faire un dossier et remplir des conditions pour pouvoir toucher donc, des indemnités. Alors, si vous êtes inscrite ou inscrite comme demandeur d'emploi, vous devez vous inscrire donc à France Travail dans un délai de 12 mois suivant la fin de votre contrat de travail. Voilà. Bon, vous pouvez vous inscrire en ligne sur France Travail en cliquant sur m'inscrire, me réinscrire pour en savoir plus, consulter la page dédiée pour m'inscrire à France Travail. Bon, le mieux c'est d'aller directement à l'agence et puis voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur et qui sait s'en servir. Vous résidez sur le territoire national, vous devez résider sur le territoire national dans lequel s'appliquent les règles de l'assurance chômage. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas toucher d'indemnisation si vous partez vous installer à l'étranger, au-delà d'une certaine durée, que ce soit pour travailler ou pour des congés. Pour en savoir plus, et bien, voilà, donc il y a un site internet, je m'absente de mon domicile, je pars en vacances, voilà, et l'allocation chômage à l'étranger, etc. Vous ne pouvez pas prétendre à une retraite à taux plein, c'est vrai. Vous ne devez pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. À compter de l'âge légal de départ à la retraite, avoir liquidé une retraite anticipée à taux plein. Voilà. C'est assez que ça s'appelle. Vous êtes physiquement apte à un emploi oui, non, si vous êtes physiquement apte à un emploi, bien vous pourrez reprendre effectivement un emploi, mais est-ce que cet emploi que vous prendrez vous satisfera, est-ce qu'il sera que ça s'appelle vos compétences, enfin, tout ceci n'est pas très facile. Vous êtes à la recherche effectivement et permanente d'un emploi, vous devez vous engager à réaliser des actions pour trouver un emploi, donc il faut faire des recherches, il faut faire ci, il faut faire là, vous présenter au rendez-vous, accepter des propositions de formation d'emploi, alors la formation d'emploi c'est quelquefois un peu de la rigolade aussi, mettre en place les actions définies avec votre conseiller France Travail, ne court quand même pas les rues, hein, dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, PPAE, par exemple, accomplir des actions d'information ou mener des démarches visant à créer ou reprendre une entreprise. Et là, on ne reprend pas une entreprise comme ça. Vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre emploi, vous n'avez pas le droit à l'allocation au chômage si vous avez démissionné, attention, de votre emploi, ou si vous l'avez quitté volontairement. Pour notre contrat qui a duré moins de 65 jours travaillés ou de moins de 455 heures, voilà, soit 3 mois. Bon, certaines démissions justifiées par des impératifs professionnels ou familiaux peuvent être considérées comme légitimes. Voilà. Vous devez avoir travaillé durant une certaine durée, c'est la condition de durée d'affiliation minimale pour ouvrir ou recharger des droits à l'assurance chômage. Elle correspond aux jours travaillés pris en compte par l'assurance chômage. Vous devez avoir travaillé au moins 130 jours ou 910 jours, ce qui correspond environ à 6 mois. Ces jours travaillés sont recherchés dans une période déterminée, c'est la période de recherche d'affiliation. Dès les 24 derniers mois, 2 ans, si vous avez moins de 53 ans. Dans les 36 derniers mois, 3 ans, si vous avez 53 ans et plus. Pour plus de détails, bien, contactez votre agence. Bon, certaines périodes ne sont pas prises en compte pour la recherche des jours travaillés. Si votre contrat de travail était suspendu pour prendre un congé sans solde non payé, d'au moins un mois civil, un congé sabbatique, consultez. Voilà, il faut encore consulter. Il faut encore prendre rendez-vous ou consulter pour faire ce que l'on veut faire. Ou une disponibilité pour fonctionnaires ou agents publics, consulter également. Voilà. Si vous avez suspendu votre contrat pour exercer une activité non salariée ou indépendante, auto-entrepreneur, commerçant ou autre exclu du champ d'application du régime d'assurance chômage, cette période de travail ne sera pas prise en compte pour le calcul de vos droits, sauf si vous l'avez fait dans le cadre d'un congé ou d'un temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise. Bon, création, reprise d'entreprise, une entreprise, il faut la créer. Et on ne peut pas créer une entreprise comme ça. Il faut des formations, il faut des revenus, enfin c'est assez compliqué. Ou alors la reprise d'entreprise, une entreprise qui ferme, elle la reprend. Mais encore là, c'est pas gagné parce qu'on ne reprend pas une entreprise comme ça, ce n'est pas compétent en la matière. comment sont calculés les jours travaillés. Les jours travaillés sont recherchés au titre d'un ou plusieurs emplois. Sur une semaine civile, du lundi au dimanche, ne sont pris en compte que 5 jours maximum. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si vous avez plusieurs emplois en même temps, chaque jour ne sera décompté qu'une fois. Les jours de formation sont pris en compte, mais pas dans leur intégralité. Au maximum, 2 tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées. Bon. Il y a beaucoup de salariés qui ont plusieurs contrats dans différentes entreprises. Cela se fait. Cela se fait également. Un exemple, vous avez été en formation en 90 jours, seuls 60 jours de formation seront comptés, 90 par 2 tiers. Voilà, j'en resterai là pour le droit au chômage. Mais dans tous les cas, rendez-vous donc à votre agence France Travail si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous ne savez pas ça vous en servir, si vous désirez avoir des renseignements physiques, allez les voir. N'hésitez pas. Il est 14h39, un peu de musique et je reprends l'émission d'ici 2-3 minutes.
Pourquoi tu te fais du souci? Chérie, j'ai la vie de trapstar. Pas vraiment le temps de ralentir. T'as flashé, tu veux pas la fast life. Pourquoi tu te fais du souci? Chérie, on est plus tes enfants. Mais fais-moi goûter dans ton candy. Mais fais-moi goûter dans ton candy. Je t'ai sur la scène, mais c'est moi qui viens te voir chanter ce soir. J'ai repéré ton talent après le show, fais-moi entendre ta voix ce soir. J'ai des trucs comme Chief, tu fais comme si t'aimes pas Sosa. Je connais les techniques. Puis tu fais comme si t'es pas fan. Puis je sais que j'étais sûr de t'avoir. Écoutez la vita, tu sais, elle sans lécher les doigts, baby. La vita, tu sais, à s'en lécher les doigts, baby. Toi, le premier rôle, viens jouer dans ma tragédie. J'ai dit, une technique. Puis tu fais comme si t'es pas fan. Puis je sais que j'ai des gens de ta voix. Pourquoi tu te fais du souci? Chérie, j'ai la vie de trapstar. Pas vraiment le temps de ralentir. T'as flashé, tu veux pas la fast life. Pourquoi tu te fais du souci? Chérie, on est plus tes enfants. Mais fais-moi goûter dans ton candy. Mais fais-moi goûter dans ton candy.
Du casting, t'es trop bonne tonne. Pour toi, j'aménage le planning. Week à London. Un modèle bien nasty comme un fantôme. Tu sens de tout, il est pasty. Never bottom.
Pam, 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 pam. Wata bam, bam. Un côté bien batch, un côté chen yen. Tu es devenu mieux, on est avant la Gen Z. C'est les manières, ils faisaient que t'as dit ton plenty. T'es vêtu parce que les groupes, ils sont plenty. T'es dedans, plus tu fais le dépendi. Ma honey, honey, je le vois dans tes yeux. Pussy wanna die, die. Pussy wanna die, die, die.
Pourquoi tu te fais du souci? Chérie, j'ai la vie de trapstar. Pas vraiment le temps de ralentir. T'as flashé, tu veux pas la fast life. Pourquoi tu te fais du souci? Chérie, on est plus tes enfants. Mais fais-moi goûter dans ton candy. Mais fais-moi goûter dans ton candy.
À 14h41, encore un peu de carrière d'antenne, nous allons maintenant passer donc à, ça s'appelle, à un article que j'ai récupéré. Attends de le trouver, je m'en excuse. Voilà. C'est quoi s'appelle, c'est le projet de loi décrypté article par article de des retraites. Bon, tout le monde sait que la retraite a été votée. Cette retraite est non favorable, donc ça s'appelle à tous les salariés. Or, nous allons voir ce qu'il en est exactement. Je précise que cette loi est passée. Alors, retraite des mots, pour le dire, le texte présenté en Conseil des ministres le 23 janvier par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est pas de cette année, hein, mais en 2023. Concernant tous les Français, mais les termes du débat restent parfois, parce que l'humanité, vous allez y voir plus clair. Âge légal de départ, c'est. Alors c'est l'âge à partir auquel un assuré est en droit de partir à la retraite. Atteindre ce seuil ne garantit cependant pas aux travailleurs de bénéficier d'un taux plein. Pour cela, il faut avoir cotisé suffisamment d'années. L'âge de départ légal est actuellement fixé à 62 ans. Voilà. Maintenant, c'est passé à 64 ans. Avec des mécanismes dérogatoires censés permettre des départs anticipés en cas de carrière longue, de pénibilité au travail pour certains secteurs spécifiques. Bon, le gouvernement souhaite le repousser à 64 ans, ce qui a été fait. Après un temps envisagé la borne de 65 ans quant au parti de gauche, ils se sont accordés que dans le programme législatif de la NUPES autour de l'idée d'un retour au droit à la retraite à 60 ans. Les carrières longues, bien sûr, créées en 2003, le dispositif carrière longue permet à ceux qui ont cotisé suffisamment de trimestres, 5 ans avant l'année civile de leurs 16 ans ou de leurs 20 ans, de partir de la retraite de manière anticipée, à 58 ans ou 60 ans dans le régime actuel. Dans le système envisagé par le gouvernement, les personnes éligibles qui ont commencé à travailler avant 20 ans devront désormais atteindre 62 ans pour liquider leurs droits. Si elles ont commencé à travailler avant 18 ans, bon, elles pourront partir à 60 ans si elles ont commencé à travailler avant 16 ans. Bon. Mais ça, c'est un peu que s'appelle, c'est un peu, comment pour dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, elles pourront partir à 58 ans comme dans le système actuel. La réforme implique donc un allongement de carrière pour des personnes qui auraient commencé à travailler donc à 18 ans et pour être amenées à cotiser jusqu'à 62 ans. Mais aucune personne ayant commencé à travailler plus tôt ne sera obligée de travailler plus de 44 ans, promet le gouvernement. Voilà, histoire de noyer un peu le poisson. Quoi. Catégorie active, à l'image des policiers, des surveillants pénitentiaires ou des sapeurs-pompiers, certains fonctionnaires relèvent d'une catégorie dite active, ce qui signifie que leur emploi présente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils peuvent donc partir à la retraite de manière anticipée. Le gouvernement n'a pas prévu de supprimer ces catégories actives qui représentent environ 19% de l'ensemble des fonctionnaires, mais un temps reculé de 2 ans. Pour elles aussi, l'âge égal de départ à la retraite, par exemple, les sapeurs-pompiers devraient atteindre 59 ans pour liquider leurs droits, alors qu'ils sont autorisés à le faire dès 57 ans dans le système actuel. La pénibilité, Emmanuel Macron, donc le président actuel, l'avait convié lors d'un déplacement à Rodez le 3 octobre 2019. La pénibilité, c'est un mot qu'il n'adore pas, effectivement. Il n'a jamais bien aimé ce mot, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Effectivement, le travail est pénible. Enfin, tout dépend quel travail aussi. D'ailleurs, en 2017, le président de la République avait vidé de sa substance le compte professionnel de prévention. C'est de Pécré en 2015, en supprimant 4 des 10 critères qui permettent aux travailleurs effectuant un métier pénible de cumuler des points pour partir à la retraite de manière anticipée. Oui, mais voilà, à quel taux? Un dispositif inopérant au point que seuls quelques milliers de personnes en bénéficient chaque année. Le 10 janvier, l'exécutif a annoncé plusieurs mesures pour améliorer le C2P, mais elles sont jugées insuffisantes par les organisations syndicales. Pension minimale, il s'agit du minimum de pension versée aux retraites que le gouvernement a annoncé vouloir porter à 80% du SMIC, soit baisser le SMIC de 25%, soit environ 1 200 euros. Ce dispositif inscrit dans la loi depuis 2003 n'a jamais été appliqué, ne concernant cependant que les assurés pouvant justifier une carrière complète, c'est-à-dire ayant cotisé suffisamment de trimestres. Le gouvernement assure que les mesures bénéficieraient à près de 25% des futurs retraités, selon d'autres calculs. Cette proportion se situerait plutôt entre 0 et 5%. Attention, la pension minimale est à distinguer du minimum vieillesse, une allocation de solidarité versée aux personnes de plus de 65 ans, dont les revenus sont inférieurs à 961,08 euros. Bon, il y a eu aussi la réforme Touraine, bien sûr. La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a été définitivement adoptée en décembre 2013. Elle porte le nom de la ministre socialiste des Affaires sociales de l'époque. Hein. C'était Marisol Touraine à l'époque. Bon, après, bien sûr, ça a évolué, mais pas forcément dans le bon sens. Entrée en vigueur en 2020, elle prévoit l'augmentation progressive du nombre de trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux plein en raison d'un trimestre par an, jusqu'à arriver 172 trimestres, 43 ans. En 2035, calendrier un temps accéléré avec l'objectif d'atteindre le régime 572 dans le trimestre dès 2027, c'est-à-dire plus on prend donc du recul et moins on aura donc des retraites, des bonnes retraites. En fait, tout ça, c'est pas pratiquement que bah, je sais pas de la peau de Dieu, mais disons que ce sont des. Cela va à l'encontre donc des masses populaires. Bon, il y a aussi, qu'on s'appelle, ce sont des régimes spéciaux, distincts du régime général qui reconnaissent la spécificité de certaines professions, permettant aux travailleurs concernés de partir à la retraite de manière anticipée. Le gouvernement entend les supprimer, ce qui est présent comme une question d'équité. Sont menacés, par exemple, les travailleurs de la RTP, les salariés de la branche des industries électriques et gazières, qui comprend encore EDF, Engie et RTE, ou encore les clercs de notaires et les employés de banque. Même les employés de banque sont visés. Bon, dans toutes ces entreprises, le gouvernement prévoit que seuls les nouveaux entrants soient affiliés au régime général de retraite, donc pour tout le monde, comme ça tout le monde sera d'accord. Ce qu'on appelle la clause du grand-père. Certains régimes spéciaux seront en revanche préservés par la réforme de retraite, ceux de l'Opéra, de Paris, de la Comédie française, des marins pêcheurs, ainsi que des régimes autonomes, des avocats et des professions libérales. Les régimes spéciaux, en gros sur les régimes spéciaux, conformément à l'engagement présidentiel, cet article prévoit la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite. Pour les nouveaux recrutés, l'existence de ces régimes spéciaux de retraite n'apparaît plus justifiée au regard des principes d'équité et d'universalité au cœur de notre modèle social. Le présent article prévoit la fermeture donc, des régimes spéciaux de retraite, des industries donc, électriques et gazières, de la régie autonome transport parisien, RATP, des clercs et employés de notaires, de la Banque de France et des membres du Conseil économique, social et environnemental. Pour les agents qui seront recrutés à partir du 1er septembre 2023, donc l'année dernière, les agents de ces organismes ou professions seront désormais affiliés au régime de droit commun pour l'assurance vieillesse, donc régime commun pour tout le monde. Les autres régimes spéciaux de retraite, marins, opéra de Paris, comédie française, ainsi que le régime autonome des professions libérales ne sont pas visés par cette mesure, enfin pas encore. Voilà, les fausses promesses sur l'emploi des seniors maintenant. Afin de faire de l'emploi des seniors une priorité des entreprises, le présent article prévoit la création d'un index senior qui a pour objectif d'objectiver la place des seniors en entreprise, d'assurer la transparence en matière de gestion des âges et de valoriser les bonnes pratiques à la matière. Cet index senior rend obligatoirement la publication par les entreprises d'au moins 300 salariés des indicateurs de suivi de la politique menée à mairie, en matière de recrutement et de maintien d'un emploi. Bon, les entreprises devront rendre public ensemble des indicateurs par une communication externe et au sein de l'entreprise et les transmettre généralement au ministère du Travail. Bon, l'absence de publication de cet index sera sanctionnée par le versement par l'entreprise d'une pénalité assise sur un pourcentage de masse salariale. Recul donc de l'âge légal, donc la punition collective, d'assurer la pérennité financière du système de retraite, le gouvernement propose d'allonger la durée d'activité pour un relèvement de l'âge de 2 ans, pour atteindre 64 ans. Sur 64 ans, nous y sommes, ainsi qu'une accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance sans changer la cible actuellement prévue 43 annuités. Bon, cet article prévoit d'une part le relèvement de l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite à raison de 3 mois par génération à compter des assurés nés le 1er septembre 1961. D'autre part, l'accélération de l'augmentation de la durée d'assurance dont est déjà prévue par la loi de... je crois que c'est la loi 2014, du 20 janvier 2014, il me semble, je n'en suis pas sûr, donc je n'en parlerai pas trop. Tout en conservant la cible de 172 trimestres, l'âge d'annulation de la décote est maintenu à 67 ans. Voilà, bon, c'était la vérité sur le projet de loi, article par article. Bon, en définitive, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que plus on travaillera longtemps, et moins nous aurons de retraite. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Merci la régie.
Ben, merci à toi Bernard pour cette émission. Bon, ben, pas et que des bonnes nouvelles malheureusement.
Très bientôt, mercredi prochain, où nous recevrons la Libre Pensée.
Merci ben, on reste connectés. Moi, j'en profite de ton émission pour faire passer un petit message à tous nos auditeurs, auditrices, parce qu'on reste encore dans un peu dans de l'information. Ce soir, à 18h au Vieux-Port, il y a un rassemblement. Donc, on vous invite à venir nombreux et nombreuses. C'est en soutien au Liban qui, en ce moment, est en train de se faire bombarder par Israël. Donc, je vous lis un peu le titre de Mediapart. Comme ça, vous avez un peu d'informations. Israël lance une nouvelle vague de bombardements au Liban. L'armée israélienne a bombardé mardi un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth, faisant 6 morts et 15 blessés selon un premier bilan. Elle avait visé la veille 1600 cibles terroristes et provoqué la mort de 558 personnes. Le secrétaire général de l'ONU redoute un autre Gaza. Donc venez nombreuses, 18h au Vieux-Port, on sera tous là. Et à la semaine prochaine pour Article 25 avec...
L'article 21, semaine prochaine, avec la libre pensée.
Je l'ai jamais oublié, c'est terminé.